Je crois que nous avions vu la dernière fois le chapitre 18, c'est-à-dire l'apparition au chêne de Mambré, n'est-ce pas, l'annonce de la naissance d'Isaac. Je vous lis ce passage de Saint-Hilaire dans Deutéricité. Je vous renvoie toujours à la source. Hein. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses moins intéressantes, c'est pas toujours. Dieu parle à Abraham. Donc Deutéricité, livre 4. 27-28. Dieu parle à Abraham, lui promet que Sarah enfantera. Ensuite, trois hommes se présentent devant lui. Il adore un seul. Et il confesse Seigneur, Adonai. Et ce Dieu, précisément, qu'Abraham a confessé, promet qu'à la même saison il reviendra. Et dit à Abraham que Sarah aura un fils. Cet homme qu'Abraham a vu, il l'adore comme Seigneur. Il reconnaît là, en effet, le mystère de l'incarnation future. Et une foi si admirable n'est pas restée sans témoignage. Car le Seigneur a dit dans l'Évangile, « Abraham, votre père, a tressailli en espérant qu'il verrait mon jour. » C'est pour bien comprendre ce façade, cette manière hein, dont les pères de l'Église, c'est un peu ce qu'on doit regarder, l'exégèse des pères de l'Église. Hein. La manière dont les pères de l'Église sont tellement familiers avec l'Écriture que, de fait, ils parlent de l'Écriture dans la lumière de l'Ancien, du Nouveau Testament, regardant l'Ancien Testament. C'est bien évident que si je me place d'un point de vue purement exégétique, ça n'a pas de sens. Si au contraire je me sers de ce qui est dit dans l'évangile de Saint Jean pour éclairer ce moment si important, hein, c'est le point de départ, la première annonciation. La première annonciation faite à Abraham qui éclaire l'annonciation faite à Marie. Il ne faut pas l'oublier. Donc je peux toujours me servir de l'un et de l'autre. Donc je ne peux pas, au point de vue théologique, et théologique biblique, et théologie mystique. Je ne peux pas comprendre parfaitement l'annonciation faite à Marie si je ne regarde pas l'annonciation faite à Abraham. Et c'est bien ce que Saint-Hilaire souligne. Et c'est ça qui est intéressant à voir, comme compréhension de l'Écriture, comme sens parfait de l'Écriture. Je relis. Et ce Dieu, précisément qu'Abraham a confessé, promet qu'à la même saison il reviendra et dit à Abraham que Sarah aura un fils. Cet homme qu'Abraham a vu, il l'adore comme Seigneur. Il reconnaît là, en effet, le mystère de l'incarnation future. Et une foi si admirable n'est pas restée sans témoignage, car le Seigneur a dit dans l'Évangile, « Abraham, votre père, a tressailli en espérant qu'il verrait mon jour. » Jésus qui dit le Magnificat d'Abraham. Il l'a vu et a été comblé de joie. Saint Jean 8, 56. Abraham a vu un homme. Cet homme promet qu'il reviendra à la même saison. Regarde maintenant l'effet de la promesse et souviens-toi que c'est un homme qui a promis. Que dit l'Écriture ? Et le Seigneur visita Sarah. Cet homme est donc le Seigneur, accomplissant ce qu'il a promis. Et ensuite, et Dieu fit à Sarah comme il l'avait dit. On l'appelle homme quand il parle, Seigneur quand il visite, Dieu quand il accomplit. Donc les trois aspects, l'homme, Seigneur, Dieu. Et l'accomplissement de la promesse, évidemment, ça relève de Dieu. Donc on l'appelle homme quand il parle, Seigneur quand il visite, Dieu quand il accomplit. Tu sais bien qu'un homme a parlé, puisqu'Abraham l'a entendu, l'a vu et entendu. Et comment ignorer qu'il est Dieu, quand la même Écriture qui l'avait appelé homme le confesse Dieu. Car il est écrit, Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Mais l'homme a dit qu'il reviendrait, croit qu'il est homme, celui qui est venu. Mais il est en même temps Dieu et Seigneur. Laisse-toi enseigner la foi. C'est le Seigneur Dieu qui est venu pour que Sarah conçoive et enfante. dans la puissance de Dieu, l'homme a parlé. Dans l'efficacité de Dieu, Dieu s'est manifesté. Donc il se montre Dieu, aussi bien quand il parle que quand il agit. Des trois hommes qu'Abraham a vus, deux s'en vont. Mais celui qui reste est Seigneur et Dieu. Alors là, l'exégèse de Saint-Hilaire est étonnante. Hein, donc, des trois hommes qu'Abraham a vus, deux s'en vont. Mais celui qui reste est Seigneur et Dieu. Et non seulement il est Seigneur et Dieu, mais il est encore juge. Car dans la suite du récit, Abraham se tenait devant le Seigneur. Abraham se tenant devant le Seigneur dit, « Non, tu ne me feras pas cela, de tuer le juste avec l'impie. » C'est juste la scène qui suit que nous allons voir maintenant, n'est-ce pas ? Et c'est intéressant de voir comment Saint-Hilaire réunit les deux, hein. Non, tu ne feras pas cela de tuer le juste avec l'impie, et que le juste ait le même sort que l'impie. Jamais. Toi qui juges toute la terre, tu ne porteras pas une telle sentence. Donc, par toutes ces paroles, Abraham nous enseigne cette foi pour laquelle il fut justifié, à savoir que trois personnes lui apparaissant, il a reconnu son Seigneur, l'a adoré comme un seul Seigneur, l'a confessé comme Seigneur et juge. Et pour ne pas être porté à croire que dans la confession d'un seul soit compris l'honneur rendu aux trois qui apparaissent ensemble, observe ce que Lot a dit aux deux qui étaient partis vers Sodome. Quand Lot les vit, il se leva et alla au-devant d'eux. Il se prosterna la face contre terre et dit, « Voici, Seigneur, arrêtez-vous dans la maison de votre serviteur. » Chez Lot, donc, la vision des anges s'exprime en des mots au pluriel. Chez Abraham, la foi du patriarche confesse une seule adoration. Dans l'apparition à Lot, l'histoire sacrée signale deux anges seulement sur les trois qui étaient apparus à Abraham. Mais dans le cas d'Abraham, elle annonce le Seigneur et Dieu. Car voici ce qui est écrit. Et le Seigneur dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» en disant « Vraiment, je vais enfanter, mais je suis vieille. Y a-t-il donc quelque chose qui soit impossible à Dieu ? Dans un an, à la même saison, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. » L'Écriture dit exactement la vérité. Elle n'insinue pas un sens pluriel quand il s'agit de reconnaître celui qui est Dieu et Seigneur. Et elle n'attribue pas aux deux anges l'honneur qui a été rendu à Dieu seul. Du côté de Lot, il y a le service rendu à l'homme. Du côté d'Abraham, il y a la confession de la vérité. C'est assez étonnant. Nous allons donc revenir, si vous voulez, au texte. Mais c'est pour vous rapporter, parce que c'est bon d'essayer, hein, en face de l'exégèse moderne, de nous rappeler constamment ce que représente cette tradition par rapport au mystère de la parole de Dieu. Il ne faut pas les exclure. Les exégèses modernes nous donnent une exigence scientifique qui n'est pas adéquate à la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu est une à travers toute l'Écriture. Et donc, elle nous enseigne pour toujours nous conduire à la vérité totale. Et la vérité plénière, c'est le Christ. Alors, nous avions vu la dernière fois ce grand mystère auquel il faut tout le temps revenir, parce que c'est quand même un des aspects tellement importants dans la vie d'Abraham, cette manière dont Abraham découvre par une expérience divine Dieu trois. Mais il mettait en parallèle la manière dont Jean-Baptiste au désert découvre l'agneau de Dieu. Parce que c'est toujours cela qui doit nous aider progressivement à comprendre ce qu'est l'expérience intérieure de la foi. Au-delà de ce qu'on voit, on adhère au mystère. Et le mystère, c'est la présence de Dieu. C'est la présence aimante et miséricordieuse de Dieu. C'est la présence miséricordieuse de l'agneau à travers Jésus. Et ici, au-delà des trois, la présence du mystère de Dieu dans ce qu'il a de plus transcendant, les trois qui ne sont qu'un. Même si Abraham n'a pas une foi explicite dans la très sainte Trinité, il a une foi dans la très sainte Trinité. Parce qu'il a une foi dans le Dieu qui lui parle, et ce Dieu qui lui parle, c'est le Dieu Trine. Et c'est bien ce qu'il nous est montré là, vous voyez. Et c'est ça, je crois, qu'il faut bien comprendre. C'est propre d'une foi implicite. La foi demeure toujours dans l'aspect obscur. Mais la foi atteint la réalité. Or, la réalité, c'est que Dieu est Trine. Et donc, quand Dieu parle à Abraham, c'est le Dieu des trois personnes. Et c'est bien montré ici, de cette manière, si vous voulez, d'une manière énigmatique, mais quand même. Yahvé apparut à Abraham à la chênaie de Mambré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente, en pleine chaleur du jour. Ayant levé les yeux, voilà qu'il vit trois hommes debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à l'entrée de la tente, à leur rencontre, et se prosternant à terre, il dit « Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Et le gratia plena, « J'ai trouvé grâce à tes yeux. » C'est un verset ici, hein, c'est Marie ne dit pas ça, c'est l'ange qui le reconnaît, tandis qu'ici c'est Abraham qui reconnaît, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie, ne passe pas loin de ton serviteur. » C'est ce qu'on doit dire au début de l'oraison, vous voyez. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, eh bien viens demeurer un tout petit peu. Parce qu'enfin, c'est ça que nous demandons dans l'oraison. C'est que c'est de tuer le veau gras pour Dieu et qu'il reste un tout petit peu. Et alors Sarah est là qui rit toujours un peu, hein, parce qu'elle a de la peine à croire que c'est vrai. Qu'on apporte un peu d'eau, lavez-vous les pieds, puis étendez-vous sous l'arbre. Je vais prendre un morceau de pain, réconforter votre cœur, ensuite vous passerez plus loin. Ensuite, vous passerez plus loin. On sait très bien ce que c'est que passer plus loin. Nous allons le voir. Hein. Puisque vous êtes passé près de votre serviteur, il dit, fais ainsi que tu as dit. Donc, Abraham a pris l'initiative. Toujours important dans les dialogues avec Dieu de voir quand l'homme prend l'initiative, quand Dieu prend l'initiative. Hein. C'est mutuel, c'est ça qui nous fait comprendre ce que c'est que la grâce. Quand saint Thomas nous dit que la charité est une amitié, c'est parce que les initiatives peuvent venir de Dieu comme de l'homme. C'est ça qui nous est montré. Vous voyez, c'est que si la charité n'était pas une amitié, l'homme n'aurait jamais d'initiative vis-à-vis de Dieu. Mais comme il y a des initiatives de l'homme vis-à-vis de Dieu, ça prouve que c'est une alliance réciproque d'amour. Fais ainsi que tu as dit. Abraham se hâta vers la tente auprès de Sarah et dit, prends vite trois séas de fleurs de farine pétries et fais des galettes. Puis Abraham courut, alors on a toute l'atmosphère de ce repas qui est fait à toute vitesse. Et la préparation de l'oraison, c'est admirable, ça se fait très bien, on voit très bien, en toute hâte, hein, ça doit se faire pleinement. Il prit du caillé, du lait, ainsi que le veau qu'on avait apprêté, plaça le tout devant eux, tandis qu'ils se tenaient près d'eux, sous l'arbre, ils mangeaient. Ah, c'est très très curieux, vous voyez. Parce que ça, c'est l'annonce quand même de l'Eucharistie aussi. C'est l'annonce du mystère de l'Annonciation et du repas commun avec Dieu. Et le repas commun avec Dieu, c'est quand même l'Eucharistie. Et ici, c'est Abraham qui fait les frais. Tandis que dans l'Eucharistie, c'est Dieu qui fait les frais. C'est toujours mieux. Parce que ça vient d'en haut. Tandis qu'ici, ça vient d'en bas. Mais c'est quand même très beau de voir cela, parce que ça fait comprendre le caractère réaliste de l'Alliance. Et ça fait comprendre le caractère réaliste de l'Alliance qui se réalise ici à travers un repas. Et lui dire, où est Sarah, ta femme? Elle est dans la tente.
Elle dit,
je reviendrai chez toi à pareille date, et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah écoutait l'entrée de la tente. Elle était derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Sarah rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis usée, aurais-je du plaisir alors que mon Seigneur est vieux ?» Yahvé dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ?» En disant, « Est-ce que vraiment je puis enfanter alors que moi je suis devenue vieille ?» Alors, toute la question de savoir ce rire, est-il un rire sceptique, est-il un rire qui annonce prophétiquement ce qu'il doit arriver, n'est-ce pas ? Il y a toutes les nuances qu'on peut dire là-dessus. Je ne dis pas ça, mais c'est intéressant, ceux qui désirent regarder, c'est intéressant de voir un peu toutes les nuances qu'on peut donner, parce que c'est les interprétations sur le rire. C'est ce qui est le plus difficile à interpréter, vous savez, le rire. Le sourire et le rire, je vous l'ai déjà dit. Il y a une herméneutique de la parole. Heidegger n'a pas donné d'herméneutique du rire. Alors les théologiens sont quoi ? N'est-ce pas ? Mais autrement, il faudrait faire une herméneutique du rire. Parce que ça existe. La manière d'interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire le rire ? Qu'est-ce que ça signifie le rire ? Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ? C'est Dieu qui demande une explication. Il demande l'explication à celui qui est responsable de Sarah, c'est Abraham. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ? En disant, est-ce que vraiment je puis enfanter alors que moi je suis devenue vieille ? Y a-t-il rien d'impossible pour Yahvé ? Alors la grande phrase, hein, la grande affirmation que la théologie va retenir et que nous retrouvons dans l'Annonciation. À cette époque, je reviendrai vers toi à pareille date. Et Sarah a un fils. Ça, c'est Dieu qui veut les coincer. Par le réalisme, hein? Parce que la prophétie demande la réalisation de la prophétie. Donc, à pareille date, je reviendrai. On verra à ce moment-là, règlement de compte. Hein? Il y a un petit règlement de compte, ça c'est très, très net. Parce que par le rire, elle veut se mettre un peu en dehors. C'est une manière de se mettre en dehors. Vous savez, l'ironie, hein? On se met un peu en dehors. C'est curieux. L'herméneutique du rire. Faites l'herméneutique du rire, on parle philosophique. Ça n'a pas été fait, donc c'est original. Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri !» plutôt que de donner l'herméneutique. Car elle avait peur. Mais il dit « Non, tu as ri !» Alors ça, c'est très très curieux. La naissance d'Isaac, oui, qui est entourée de cette liturgie du rire. C'est montrer quelque chose qui dépasse le point de vue de la prudence humaine. C'est la manière dont Dieu se manifeste au-delà de la prudence humaine. Rien n'est impossible à Dieu. Pour la prudence humaine, non, c'est impossible. On est devant quelque chose d'impossible. Alors c'est intéressant, voyez, parce que c'est Dieu qui dépasse les lois de la fécondité. C'est le Dieu de la fécondité. Et pour bien montrer qu'il est le Dieu de la fécondité, c'est le Dieu qui dépasse les lois de la fécondité. Il dépasse les lois de la fécondité en faisant que la femme stérile est un enfant, et que la femme non seulement stérile est un enfant, mais que la femme qui normalement ne doit plus avoir d'enfant en est. C'est pour ça que Abraham, de fait, est père à la fin de sa vie d'Isaac. C'est pour montrer que c'est entièrement enveloppé de la miséricorde de Dieu. Et que c'est la surabondance, que l'ancienne alliance est enveloppée de cette surabondance de miséricorde. Et du Dieu de la fécondité. C'est le Dieu de la fécondité. C'est toute l'Écriture qui est le Dieu de la fécondité. Vous voyez déjà la bénédiction, hein? Toujours, la bénédiction de Dieu. Tout à fait au début de la Genèse. Dieu qui bénit pour la multiplication et la fécondité. Melchisédek qui bénit Abraham. Et Dieu qui bénit Abraham pour en faire le père de la multitude. Alors voyez comme ça nous aide à comprendre ce qu'est la fécondité du sacerdoce royal de Melchisédek. Puisque c'est au-delà de cette fécondité
qui fait appel à la toute-puissance de Dieu. C'est la toute-puissance du Créateur. Et alors, la bénédiction que Melchisédek donne à Abraham représente la fécondité sacerdotale qui dépasse.
S'étant levé de là, les hommes regardèrent du côté de Sodome. Donc ils sont venus avec une intention, on dirait, derrière la tête. Hein. Ils sont venus voir Abraham, Abraham les arrête, mais ils doivent passer. Abraham comprend un tout petit peu, il a compris, puis vous passerez votre chemin. S'étant levé de là, les hommes regardèrent du côté de Sodome. C'est ce petit passage que j'ai lu tout à l'heure de Saint-Hilaire. Abraham allait avec eux pour les reconduire. Il est poli, Abraham. Il ne continue pas sa sieste. Non, il y a quelque chose qui est changé. Alors Abraham allait avec eux pour les reconduire. Il avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Ça, c'est une petite réflexion de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Ça aussi, il faudrait la petite fiche de toutes les réflexions de Dieu, de toutes les attitudes réflexives de Dieu qui nous sont révélées dans l'Écriture. Il y a toute une série. C'est intéressant à voir. Faisons l'homme à notre image. Ici, on peut le dire. C'est Dieu qui se prend conseil de lui-même. Il ne va pas prendre conseil de quelqu'un d'autre. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, alors qu'Abraham doit devenir une nation grande et forte, et que par lui se béniront toutes les nations de la terre. C'est en raison de la grandeur d'Abraham, grandeur qui vient de Dieu, qui est donnée à Abraham par Dieu, que Dieu, j'allais presque dire, se sent gêné de cacher quelque chose à Abraham. Il y a un anthropomorphisme extraordinaire, mais qui est beau à voir. Hein? Parce que ça nous fait comprendre la grandeur d'Abraham en face de Dieu. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? À quelqu'un qui est important, à quelqu'un qui a une dignité de la personne, vous voyez la personne, hein? La dignité de la personne qui est manifestée par le fait même qu'Abraham doit devenir une grande nation, grande et forte, et que par lui se béniront toutes les nations de la terre. Car je l'ai distingué afin qu'il commande à ses fils et à sa maison après lui, d'observer la voie de Yahvé en pratiquant justice et droit. Alors soulignez la voie pour toujours les actes des apôtres. Hein? La voie, la nouvelle voie, c'est le Christ. Alors c'est important de voir, d'observer la voie d'Yahvé. Parce que nous ne comprenons pas très bien quand Jésus dit « Je suis la voie ». Alors comprenez, ici, l'enracinement, hein, d'observer la voie, sa maison, après lui, d'observer la voie d'Yahvé, en pratiquant justice et droit, afin que Yahvé fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit sur lui. Donc, il y a une réflexion de Dieu. Va-t-il garder son secret ? Alors c'est important ce secret, parce que c'est la première fois où on voit une telle réflexion dans le gouvernement divin, dans l'économie divine, c'est la première fois. Dieu hésite de mettre l'homme dans le coup. Dieu hésite de faire cette coopération, alors que juste avant, on voit cette coopération étonnante de Dieu avec Abraham et Sarah pour la naissance d'Isaac, puisqu'il y a un miracle, donc il y a une coopération. Et ici, Dieu hésite. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de la justice. Il s'agit d'un secret de justice, de punition à l'égard de Sodome. Très curieux. Dans l'ordre de la fécondité, Dieu n'hésite pas de communiquer le secret à l'homme, de communiquer le secret à la femme. Quand il s'agit de la justice, Dieu hésite. Il faut nous demander pourquoi, parce que c'est cela qui va nous aider à comprendre petit à petit ce qu'est le cœur de Dieu. C'est à travers cela que nous devons découvrir ce que représente le mystère même de Dieu pour nous, puisque c'est Dieu qui se révèle. Et Dieu se révèle à travers ses hésitations. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Il avait dit. le cri contre Sodome et Gomorre, qu'il est intense. Le cri. Alors ça, c'est aussi une chose curieuse. Le cri qui monte vers Dieu. Le cri qui monte vers Dieu, cette clameur qui monte vers Dieu. La clameur comme le sang d'Abel clamé vers Dieu. Genèse 4, 10. La Bible nous apprend aussi que l'intervention divine n'est donc pas directement une vengeance personnelle, infligeant au coupable un châtiment. C'est par bonté que Dieu s'émeut des souffrances que la malice des hommes multiplie. Et c'est vrai, c'est ça qui nous est montré. Le cri contre Sodome et Gomorre, qu'il est intense. Parce qu'il y avait des justes dans Sodome et Gomorre qui ne pouvaient pas supporter ce qui se passait. Et donc ils imploraient Dieu d'intervenir. C'est dit dans l'Apocalypse, vous savez, je crois que c'est la cinquième trompette, hein, le cri des justes qui dit « Quand ? Combien de temps vas-tu encore laisser ces injustices ?» On entend toujours le cri comme ça de Saint Jean qui dit « Seigneur, quand même, tant d'injustices dans le monde, combien de temps vas-tu les laisser ?» Alors c'est intéressant de voir ça ici. Le cri contre Sodome et Gomorre, qu'il est intense. Je crois que c'est la première fois aussi que nous voyons d'après l'économie divine. Hein. Le mystère d'Abraham est très très important, parce qu'il nous introduit. Il nous introduit dans toute l'écriture. C'est pour ça qu'il est le père des vivants, le père des croyants. Parce que de fait, la dimension d'Abraham, hein, si on la prend dans toute sa grandeur, la dimension d'Abraham a quelque chose de beaucoup plus grand que la dimension de Moïse. Les deux sont très grands. Mais Moïse, c'est pour le peuple d'Israël. Il y a chez Abraham une espèce de dimension, j'allais dire paternelle, sur toute l'humanité. C'est le père. Moïse, c'est le législateur. C'est pas la même dimension. Et je crois qu'il faut essayer de saisir ça. Parce que c'est quand même intéressant de voir ça. De voir ce moment où il y avait hésite de révéler à Abraham le secret de sa décision de justice. Il avait dit le cri contre Sodome et Gomorre qu'il est intense et leur péché qu'il est grave. Je vais donc descendre et voir si la clameur qui contre eux est venue jusqu'à moi répond à tout ce qu'ils ont fait. Sinon, je le saurai. Donc, Dieu veut voir si les récriminations contre Sodome et Gomorre sont vraies. Les revendications. Si cette clameur est vraie. Les hommes repartirent de là. Ils allèrent vers Sodome, tandis que Yahvé se tenait encore devant Abraham. C'est là qui est très curieux, hein, les hommes et Yahvé. C'est ce que Saint-Hilaire a souligné. Oui, ce petit passage très curieux. Les hommes repartirent de là et allèrent vers Sodome, tandis que Yahvé se tenait encore devant Abraham. Abraham s'avança et dit... Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le méchant ? Ben, ce passage très très connu de la prière d'Abraham pour Sodome et Gomorre. Ne prions pas qu'il y a Lot. Hein. Le cœur d'Abraham est lié à Lot. Alors, il y a Sodome et Gomorre, c'est pour ça qu'Abraham s'intéresse à Sodome et Gomorre. C'est pour ça qu'Abraham intervient. Il y a donc toute une charité fraternelle d'Abraham qui est liée à Lot et donc qui est liée à Sodome et Gomorre. Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le méchant ? Peut-être. Y a-t-il 50 justes au milieu de la ville ? Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à ce lieu en raison des 50 justes ?
qui s'y trouve. Donc il y a eu la clameur contre Sodome et Gomorre. Et il y a la prière d'Abraham. Vous voyez, cette espèce de plaidoyer, c'est un procès. C'est Dieu qui prie au point de vue de sa justice et au point de vue de sa sagesse. Hein. Et alors vous voyez les deux. C'est une scène admirable. Hein. Alors évidemment, c'est dans un langage très humain, mais c'est très très beau ça. Et quelquefois, on voit très bien la manière dont les êtres regardent telle ou telle chose. Dieu entend la clameur et Dieu entend Abraham. Il entend la clameur de tous ceux qui disent « Mais quand même, hein, ça ne peut pas durer. » Puis Abraham dit qu'il y a d'autres intérêts. Puis Abraham qui lui alors prend tout à fait un autre point de vue. Hein, c'est tout à fait l'autre point de vue. Vous voyez bien le procédé. Telle ou telle chose, Dieu entend la clameur et Dieu entend Abraham. Il entend la clameur de tous ceux qui disent « Mais quand même, hein, ça ne peut pas durer. » Puis Abraham dit qu'il y a d'autres intérêts. Puis Abraham qui lui alors prend tout à fait un autre point de vue, hein, c'est tout à fait l'autre point de vue. Vous voyez bien le procédé par laquelle cette prière d'Abraham, par laquelle il va toucher le cœur de Yahvé. « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le méchant ?» C'est impossible. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas faire une punition collective. Vous savez, c'est les surveillants qui font des punitions collectives. Parce que quelqu'un a chahuté, toute la classe rochelle sera punie. Hein, parce qu'on n'arrive pas à trouver le coupable. Il se cache. Alors toute la classe sera punie. « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le méchant ?» Ça, c'est humain de faire ça. Hein, c'est le pion. Dieu n'est pas un pion, heureusement, n'est-ce pas ? Il fait autrement, il sonde les reins et les cœurs. Alors Abraham sait très bien, peut-être il y a 50 justes au milieu de la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? 50 justes. Ne pardonneras-tu pas à ce lieu en raison des 50 justes qui s'y trouvent ? Les 50 justes, c'est peut-être ceux qui ont crié. C'est peut-être ceux-là qui ont crié les 50 justes. On le dit pas. Loin de toi d'agir de cette manière, faire périr le juste avec le méchant, de sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, ne pratiquerait-il pas le droit ? C'est très beau, une justice, hein ? Il avait dit, si je trouve à Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à tout ce lieu à cause d'eux. Abraham prit la parole et dit, voici que j'ose parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Vas-tu pour ces 5 détruire toute la ville ? C'est un magnifique plaidoyer. Il dit, je ne détruirai pas s'il s'y trouve 45. On le remet dans la vérité. Oh, Dieu remet dans la vérité, parce que enfin, c'est la petite astuce. C'est merveilleux. Abraham, il arrive à mettre bien les choses à leur place. Abraham reprit encore la parole et dit, peut-être. S'en trouvera-t-il 5 40 ? Il dit, je ne le ferai pas à cause des 40. Abraham dit, daigne mon Seigneur ne pas se mettre en colère. C'est une prière merveilleuse, hein ? Vous avez le droit d'avoir ce genre de prière. Si le Saint-Esprit vous y pousse. Hein. Daigne mon Seigneur ne pas se mettre en colère. Si je parle, peut-être s'y en trouvera-t-il 30. Il a très peur, hein. Abraham sait très bien, il a entendu aussi les cris hein, contre Sodome et Gomorre. C'est connu. Il dit, je ne le ferai pas si j'y en trouve 30. Abraham dit, voici que j'ose parler à mon Seigneur. On le voit bien, il doit baisser les yeux à ce moment-là. Hein, et rouler son chapeau. On voit très très bien. Il est tout à fait dans une attitude de timidité. Il n'ose plus le regarder. Il est devant. Hein, il est devant, mais aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout des exigences de son cœur d'homme. C'est ça qui est magnifique. Hein. Ce plaidoyer, il a pris fait et cause pour Lot. Voici que j'ose parler à mon Seigneur. Peut-être s'y en trouvera-t-il 20. Il dit, je ne détruirai pas à cause des 20. Abraham dit, dès mon Seigneur, ne pas se mettre en colère. Si je parle encore une fois, peut-être s'y en trouvera-t-il 10. Il dit, je ne détruirai pas à cause des 10. Yahvé s'en alla. Lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Chacun dans sa demeure. C'est admirable, ça. Comme lien entre Abraham et Yahvé. Alors je crois qu'il faudrait, hein, si on pouvait au point de vue théologique, comprendre qu'Abraham a cette audace à cause de l'alliance qui s'est faite au chemin de Mamré. C'est dans la lumière, et c'est bien ce que saint Hilaire nous fait comprendre, hein. C'est dans la lumière de l'alliance qui est faite au chemin de Mamré qu'Abraham a une telle audace, une telle espérance. La prière de demande se fait à l'intérieur de la vertu théologale d'espérance. Et alors on peut, à l'égard de Dieu, aller le plus loin possible dans l'ordre de l'espérance. L'espérance pour nous, l'espérance pour ceux que nous aimons. Alors, c'est là où nous découvrons la grandeur d'âme de l'espérance d'Abraham. Parce que c'est vraiment la grandeur d'âme. C'est pas pour lui, vous voyez, c'est pour les autres. C'est pour ceux qu'il aime. Et alors, il sait jusqu'où il peut aller. Ça aussi, c'est beau. La discrétion d'Abraham. Hein? L'audace d'Abraham et la discrétion d'Abraham. Il ne va pas trop loin. Il va jusqu'où il peut aller. Alors, évidemment, il n'y a pas de mesure dans la miséricorde de Dieu. C'est sûr. Mais il y a la justice. Toutes les voies de Dieu impliquent justice et miséricorde. C'est ça qui nous est montré ici. Toutes les voies de Dieu impliquent justice et miséricorde. Et alors, dans l'ancienne alliance, le lien entre la justice et la miséricorde n'est pas le même que dans la nouvelle alliance. Mettez en parallèle Jésus face à la femme adultère. Parce que les deux textes sont en parallèle, hein, ça c'est sûr. Parce que des deux côtés, on découvre ce que c'est que la miséricorde. On découvre la profondeur de la miséricorde de Dieu. Et on comprend l'intervention d'Abraham, et de l'autre côté, on voit la manière dont Jésus fait que les défenseurs de la loi disparaissent. Tous les défenseurs de la loi disparaissent, en commençant par les plus âgés. Ça, c'est la procession très particulière. C'est les plus vieux qui commencent. Quand vous voyez une procession, c'est les plus vieux qui commencent. Pensez toujours à cette procession, n'est-ce pas ? On voit que ceux qui sont le plus lourdement chargés de péché s'en vont les premiers. Puis le petit Benjamin dernier. Ici, Abraham ne défend pas la loi, il défend la justice. Il défend le juste. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et alors, c'est tout ce passage, on voit très bien les trois hommes. Il y avait le départ des hommes et les deux anges. C'est très curieux. Et c'est intéressant de voir comment un Saint-Hilaire s'est intéressé à ces manières différentes dont Dieu se manifestait. Dans les manifestations, il y a une diversité. Dans la réalité profonde de l'intention, il y a l'unité. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Dès qu'il les vit, Lot se leva pour aller à leur rencontre. Et se prosternant le visage contre terre, il dit, « De grâce, mes seigneurs, détournez-vous, je vous prie, vers la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, puis demain matin, vous irez votre chemin. » Et la différence, alors c'est ça que Saint-Hilaire note, hein, la différence dont un Abraham regarde Dieu et la manière dont Lot voit les deux anges. Le regard de Lot va beaucoup moins loin que le regard d'Abraham. En raison de l'intensité de la foi d'Abraham et la moindre intensité de foi de Lot. Alors ça, c'est très important parce que ça fait comprendre comment le même fait, la même réalité peut être regardée dans une profondeur différente. C'est capital pour comprendre la manière dont Marie reçoit le message de l'ange et la manière dont les exégètes d'aujourd'hui reçoivent le message de l'ange. Abraham, Lot. Vous voyez tout de suite. Dès qu'il les vit, Lot se leva pour aller à leur rencontre et se prosternant le visage contre terre, il dit, « De grâce, mes seigneurs, détournez-vous, je vous prie, vers la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, puis demain matin, vous irez votre chemin. » Ils dirent, « Non, nous passerons la nuit sur la place. » Il les pressa si fort qu'ils se détournèrent vers lui, mais il les pressa si fort qu'ils se détournèrent vers lui et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, cernèrent la maison, depuis les jeunes jusqu'aux vieux, le peuple entier sans exception. Mais c'est Dieu qui sonde les reins et les cœurs. C'est ça qui nous est montré ici. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Vous voyez là, on voit très bien le vice présent. Immédiatement, ils jettent sur ces nouveaux arrivés. Lot sortit vers eux à l'entrée et ferma la porte derrière lui. Il dit, « Non, de grâce, mes frères, ne faites pas le mal. Voici que j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vais donc les faire sortir vers vous. Traitez-les comme bon vous semble. » Seulement, à ces hommes ne faites rien, puisqu'ils sont entrés à l'ombre de mon toit. » Et alors la noblesse de Lot, n'est-ce pas, qui veut montrer qu'il les a pris directement sous son ombre, sous son ombrage, hein, entrer à l'ombrage de mon toit. Alors ça c'est intéressant aussi, c'est intéressant pour essayer de comprendre toujours à l'ombre de Dieu, hein, mais ces expressions qui montent sous la protection, ils sont sous la protection de Lot. Dès qu'on ouvre la tente à quelqu'un, ils sont sous sa protection. Et on a charge d'eux. Et Lot, terrifié devant les hommes, il aime mieux sacrifier ses filles que les autres. C'est très curieux au point de vue. Manière, hein, de concevoir l'ordre de justice et l'ordre de charité.
Nom de grâce, mes frères, ne faites pas le mal. Voici que j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vais donc les faire sortir vers vous. Traitez-les comme bon vous semble. Seulement, à ces hommes, ne faites rien, puisqu'ils sont entrés à l'ombre de mon toit. Ils dirent, tire-toi de là. En voilà un qui est venu résider chez comme étranger. Et il fait le juge. Eh bien, nous te ferons plus de mal qu'à eux. Ils pressèrent fortement l'homme, Lot, et s'avancèrent pour briser la porte. Mais les hommes entendirent la main, firent rentrer Lot auprès d'eux dans la maison et fermèrent la porte. Quant aux hommes qui étaient à l'entrée de la maison, ils les frappèrent d'aveuglement, du plus petit au plus grand, si bien qu'ils durent renoncer à trouver l'entrée. Le premier mystère hein, de la justice de Dieu par rapport à Sodome et Gomorre. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Tes fils, tes filles et tout ce qui est à toi dans la ville, fais-les sortir du lieu. Nous allons en effet détruire ce lieu. Car elle est grande devant Yahvé, la clameur qui s'élève contre eux. Et Yahvé nous a envoyés pour les détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui devaient épouser ses filles. Debout, dit-il. Il n'a pas été consulté, les gendres avant. C'est très curieux. Maintenant, il faut les appeler. Lot sortit et parla à ses gendres qui devaient épouser ses filles. Debout, dit-il, sortez de ce lieu, car Yahvé va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Quand monta l'aurore, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Debout, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici de peur de périr dans le châtiment de la ville. » Comme ils s'attardaient, les hommes saisirent sa main, la main de sa femme et la main de ses deux filles, car Yahvé voulait l'épargner. Ils le firent sortir et l'installèrent hors de la ville. Lors donc qu'il les eut fait sortir dehors, il dit, sauve-toi sur ta vie. Ne regarde pas derrière, toi, ne t'arrête nulle part dans tout le district. Sauve-toi à la montagne de peur de périr. Lot leur dit, non, je t'en prie, mon Seigneur, voici que ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux. Et c'est une grande faveur que tu as témoignée envers moi en me conservant la vie. Je ne puis, moi, me sauver à la montagne sans que le malheur ne s'attache à moi et que je ne meure. Voilà cette ville assez proche pour y fuir. Elle est peu de choses. Permets que je me sauve là-bas. N'est-elle pas peu de choses? Et que je vive. Il leur dit, soit. Je t'accorde encore cette grâce. Je ne bouleverserai pas la ville dont tu parles. À toi de te sauver là-bas, car je ne puis rien faire que tu n'y sois entré. Voilà pourquoi on a appelé la ville du nom de Soar. Bon, on continuera la fois prochaine. Ce sera assez loin, n'est-ce pas, de terminer par cette justice. C'est un des aspects hein, très importants dans l'Ancien Testament. De voir le mystère de la justice de Dieu. C'est ça qu'on doit comprendre. Et de voir le mystère de la justice de Dieu qui implique cette expérience. Dieu n'a pas voulu frapper Sodome et Gomorre sans qu'il y ait cette expérience. Dieu n'en avait pas besoin, c'est bien évident. Mais c'est pour nous qu'il faut comprendre cela. C'est pour nous. Et que Dieu regarde le juste, même s'il n'y en a qu'un, Lot, grâce à la prière d'Abraham.
et le fait sortir. Mais le point de vue de la justice et le point de vue de la miséricorde. Le point de vue de ce discernement d'une justice qui épargne le point de vue de la miséricorde. Alors, c'est, je crois, dans la lumière, vous voyez, de cette alliance nouvelle d'Abraham avec Yahvé, qu'il faut comprendre comment il y a une répercussion de cette alliance sur Lot. Une répercussion de miséricorde sur Lot.